le magazine des Nations Unies.
La problématique d'enrôlement des enfants aux forces et groupes armés, toujours d'actualité aujourd'hui en RDC. La communauté nationale internationale se mobilise pour prévenir et sensibiliser. C'est à l'occasion de la célébration de la journée des enfants associés aux groupes armés. Focus sur cette journée avec notre invité dans cette édition. Et puis halte aux violences intercommunautaires à Lubero et Walikale. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme se dit inquiet. Il condamne ces violences qui ont atteint, selon lui, un niveau alarmant. Les détails dans ce numéro. Enfin, le cancer tue dans le monde et même en République démocratique du Congo. En marge de la célébration, le 4 février de chaque année, de la journée de lutte contre cette maladie, le magazine des Nations Unies a approché un spécialiste de l'OMS pour faire le point.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. Comme nous le disions en titre, la communauté internationale a célébré vendredi dernier la journée de la main rouge ou la journée des enfants associés aux groupes armés. En République démocratique du Congo, un accent est mis sur la prévention et la sensibilisation. Mais combien d'enfants sont-ils encore aujourd'hui dans les groupes armés? Combien en sont-ils sortis? Et comment se passe leur réinsertion sociale? Esquisse de réponse dans cet élément de Jean-Pierre Elali Coco.
La MONUSCO a documenté plus de 33 000 enfants recrutés par les forces et les groupes armés ces 15 dernières années en RDC. C'est trop et il faut arrêter, estiment les humanitaires. Un rapport de la section protection de l'enfant de la MONUSCO souligne qu'il faut plus de prévention, plus de sensibilisation pour lutter contre ce fléau. Cette stratégie et aussi les efforts des différents acteurs commencent à porter des fruits. Ces rapports indiquent par exemple que pour la seule année 2015, un peu plus de 2000 enfants ont été séparés de groupes armés. Les filles sont particulièrement vulnérables. En plus des épreuves et des souffrances dont les garçons font aussi l'expérience, elles sont, la plupart des temps, abusées sexuellement par des combattants rebelles. Elles sont également utilisées pour la cuisine ou le nettoyage. D'après le rapport de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, certaines reçoivent aussi une formation militaire et sont même envoyées sur les champs de bataille. Pour célébrer cette journée en RDC, des activités de sensibilisation et de prévention sont programmées dans les localités identifiées par le bureau terrain de la MONUSCO telles que Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Dungu, Bunia, Beni, Butembo, Bukavu, Vira, Matadi et Kalemi. Objectif, sensibiliser et prévenir au moins 100 000 enfants, parents et membres de la communauté sur l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Signalons que le 12 février marque l'anniversaire de la signature d'un protocole annexe de la Convention relative aux droits de l'enfant, convention qui interdit, comme vous le savez, l'utilisation des enfants dans les conflits armés.
L'autre actualité de la semaine qui s'achève, c'est cette inquiétude du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme suite à l'escalade de violences intercommunautaires dans le territoire de Lubero et Walikale dans le Nord Kivu. Dans une déclaration rendue publique mardi 8 février à Genève en Suisse, le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme affirme que ces violences ont atteint un niveau alarmant. Paul Matendo pour plus d'éclairage.
Cécile Pouy rapporte que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a reçu des rapports sur les déplacements massifs des civils, des pillages, des enlèvements et des viols au cours de ces derniers jours. Les tensions entre les communautés Hutu et Nandé, appuyées par des groupes armés qui sont en hausse depuis novembre dernier, semblent avoir atteint un niveau alarmant, précise la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle ajoute que ces derniers incidents pourraient engendrer des violences à grande échelle et davantage de déplacements. Cécile Pouy demande ainsi au gouvernement congolais de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la protection des civils et éradiquer la menace des groupes armés.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le cancer tue dans le monde et aussi en République démocratique du Congo. C'est pourquoi les Nations Unies consacrent le 4 février de chaque année à cette maladie pour s'arrêter un moment et réfléchir sur les moyens de lutter efficacement contre le cancer. Quel est l'état de lieu du cancer et surtout les moyens de prévention en RDC? Réponse dans cet entretien que Jean-Pierre Elali Coco a eu avec le docteur Adolphe Kongolo. Il est chargé de maladies non transmissibles à l'OMS en RDC. Suivez.
Docteur Adolphe Nkongolo, bonjour.
Bonjour, bonjour, mon ami Jean-Pierre et Nali.
Le monde a célébré le 4 février dernier la journée mondiale de lutte contre les cancers. D'abord, docteur, qu'est-ce que c'est le cancer?
Le cancer, ou autrement dit, on l'appelle aussi tumeur maligne, c'est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et au sein d'un organe normal. d'un tissu normal, et de telle manière que la survie même de ces tissus est menacée. Au cours de l'évolution de la maladie, certaines cellules peuvent migrer de leur lieu de production et former ce que l'on appelle des métastases. C'est ça même qui menace la vie des patients et entraîne que le dépistage soit vraiment précoce.
Là, c'est vraiment très scientifique. Pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on doit retenir?
Pour le commun des mortels, ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer, c'est un gonflement, une multiplication anormale des tissus, c'est-à-dire
des cellules
oui. Au niveau d'un organe. Donc, quand au niveau de la peau, tu verras que ça gonfle. Il y a beaucoup de cellules qui gonflent. Au niveau du sein, ça gonfle. Au niveau aussi de l'intérieur de l'estomac, puisque les cellules de tout le corps qui peuvent devenir cancéreuses. Alors, ça gonfle et ça se développe de manière anarchique. Ça prend les autres cellules et c'est un peu ça pour le commun des mortels. Même dans le sang aussi, ça peut faire de la même manière.
Donc, ça peut attraper n'importe quelle partie du corps.
Oui, toutes les cellules.
Ce qui revient qu'il y a plusieurs types de cancers. Est-ce que vous pouvez nous donner ces types de cancers et puis dire lesquels sont les plus courants en République démocratique du Congo?
Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons plusieurs cellules au niveau du corps, plusieurs organes. Et il y a plusieurs types de cancers qui peuvent attraper la peau, les yeux, les nez, la bouche, plusieurs. Mais au niveau de la RDC, nous avons quelques petits problèmes au niveau des données, mais nous avons essayé de faire une collecte active des données au niveau de 25 hôpitaux de Kinshasa et du Bas-Congo. Cette collecte nous a permis de voir que le premier cancer qui est le plus fréquent, qui est rentré dans cette collecte-là, c'est le cancer du col de l'utérus.
Chez la femme?
Chez la femme.
Oui.
On a pris de manière globale, mais on a vu que c'est ce cancer-là qui était le plus important, suivi du cancer de la prostate chez l'homme, qui était suivi du cancer du foie. Mais le cancer du foie, il y avait trois fois plus chez l'homme que chez la femme.
Pourquoi, docteur?
On n'est pas entré, il n'y a pas de registre pour qu'on puisse entrer en profondeur. Mais après, c'est le cancer du sein chez la femme, les cancers des lymphomes. Ce sont des cellules, des glandes, hein? les cancers des glandes. Mais notons qu'en dehors de cela, il y a le cancer de col, du rectum, les cancers d'œsophage, les cancers du poumon.
Il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a plusieurs.
Et comment s'est fait alors les diagnostics de cette maladie, docteur?
Mais en tout cas, pour diagnostiquer, il faut absolument faire un prélèvement et regarder le type de cellules au niveau du microscope pour voir si ces cellules sont devenues métaplasiques. Pour le commun des mortels, ils doivent savoir que les cellules sont différentes de ce qu'elles étaient normalement. Donc, en principe, chaque type de cellule a une forme et une morphologie bien précise. Mais quand les cellules deviennent cancéreuses, elles prennent une forme qui est différente de la forme originale. Et en ce moment, on trouve que au lieu, les cellules de cette place devaient être comme ça, mais elles deviennent différentes et c'est ça qu'on appelle les cellules métaplasiques différentes.
Est-ce que, docteur, quand vous dites que c'est une maladie qui se répand dans notre pays, est-ce qu'il y a moyen de prévenir un cancer?
Oui. Effectivement, les stratégies de prévention, notamment, c'est éviter les facteurs de risque. Et les facteurs de risque le plus important, c'est le tabagisme. C'est le premier facteur de risque le plus important. Il faut éviter le tabagisme. Il faut aussi
La cigarette, par exemple.
La cigarette.
Il faut arrêter de fumer.
Et on a fait beaucoup d'émissions ici. Je crois que le gouvernement a même décrété des espaces non-fumeurs. C'est pour, effectivement, lutter contre les cancers.
Et l'autre risque, c'est quoi?
Il y a beaucoup de risques. Il y a la surcharge pondérale. Donc, si les gens pensent que quand ils deviennent plus gros, ils deviennent en bonne santé, mais c'est plus dangereux pour eux. Ils sont à risque pour les cancers. Il y a une consommation insuffisante des fruits et des légumes. Puisqu'ici, je vois, les gens aiment bien manger seulement la viande, le chikwang, et c'est fini. Non, il faut manger des fruits et il faut manger des légumes. Il y a un manque d'exercice physique. Les gens doivent vraiment faire de l'exercice physique. Il y a la consommation d'alcool qui est aussi à risque. Il y a des infections, comme les infections à HPV. C'est une infection sexuellement transmissible. qui est à la base des cancers du col de l'utérus. Il y a l'infection au virus de l'hépatite B et C, et heureusement pour le pays, puisqu'il y a la vaccination contre l'hépatite B avec le programme élargi de vaccination. Vraiment, c'est ce virus qui est à la base de la majorité des cancers de foie. Il y a les rayonnements ionisants et non ionisants. Les rayonnements ionisants, c'est ceux qu'on attrape dans la radiologie. Il faut vraiment que les services de radiologie évitent que ces rayons attrapent et la population et le personnel qui travaille. Et les rayonnements non ionisants, ce sont les ultraviolets et autres, surtout pour les albinos qui sont beaucoup plus à risque s'ils sont exposés au soleil. Il y a aussi les pollutions de l'air des villes. Il y a les fumées à l'intérieur des maisons et même l'utilisation de combustibles solides à l'intérieur des maisons est très dangereux. Donc, il y a plusieurs facteurs, les insecticides et les autres, qui sont des facteurs de risque. Et là, il faut les éviter. Mmh. Et aussi, dans les stratégies, il faut aussi vacciner.
Il faut la vaccination.
Il faut vacciner contre le papillomavirus. Il faut vacciner contre l'hépatite B. Il y a certains risques professionnels pour les gens qui travaillent, par exemple, dans les mines. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire pour prévenir.
Le président de la Ligue nationale de lutte contre le cancer soutient qu'il n'y a pas des données disponibles sur cette maladie en République démocratique du Congo. Donc, pas des statistiques. Partagez-vous cette affirmation ou cette déclaration?
Oui, je partage cette affirmation. Il a raison. Nous avons des problèmes de données sur le cancer en RDC. Vous savez, le seul outil qui peut nous permettre d'avoir des données factuelles sur le cancer, c'est le registre de cancer. Nous n'avons pas encore de registre de cancer national ici en RDC.
Pourquoi, même à l'OMS, on ne disposerait pas de ces données, même aider les gouvernements à avoir ces données?
Oui, l'OMS a déjà fait un effort, puisque l'OMS a aidé le pays à écrire la stratégie nationale de lutte contre le cancer du col et du col de l'utérus et du sein. Et dans cette stratégie, l'OMS a défini déjà le modèle de registre, le registre national et le registre hospitalier. Et ces deux outils ont déjà été approuvés. Maintenant, l'OMS va faire un effort. Approuvé par la CTLM, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui doit d'abord approuver ces outils avant leur mise en place. C'est déjà un très bon effort. L'OMS va faire un effort maintenant pour voir comment mettre en place ces outils.
Alors, l'année dernière, donc en 2015, le gouvernement congolais projetait un dépistage des masses du cancer. Qu'est-ce que cela veut dire et où en sommes-nous aujourd'hui avec cette initiative, docteur?
Oui, effectivement, le dépistage de masse de cancer, c'est une opération qui vise à repérer les personnes qui présentent certaines anomalies évocatrices des cancers. Ici, chez nous, le gouvernement voulait le faire pour le cancer du col et du sein. C'est de voir des gens qui présentent déjà des signes de ces cancers afin de confirmer si ça n'est le cas. Le traitement précoce peut sauver les vies. Et il y a aussi, pour le cancer du col, des lésions qu'on appelle des lésions précancéreuses. Ce sont des lésions qui vont évoluer vers le cancer, qui n'est pas encore le cancer. Et si on les détecte chez les femmes, en ce moment, on coupe ces lésions et on protège cette femme, ne feront pas de cancer. Voilà pourquoi le gouvernement a voulu faire ce dépistage. Et je crois que l'OMS va voir comment aider à mettre en place ça.
Parlons maintenant de la prise en charge des personnes atteintes du cancer, docteur. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a un système de prise en charge des malades jusque-là?
Organisé, pas encore au niveau national, puisque nous n'avons pas encore un centre de cancérologie, mais il y a quand même des efforts. Il y a des hôpitaux qui prennent en charge, les cliniques universitaires. Il y a le centre Nganda, où le docteur Soulo a fait beaucoup d'efforts, même a mené un appareil de radiothérapie.
Et à l'intérieur, il n'y en a pas?
À l'intérieur, vraiment, il y a encore beaucoup de difficultés dans la prise en charge de cette maladie.
Et docteur, Radio Okapi vous remercie.
Merci beaucoup.
Commençons cette page par cette information. Séance de travail lundi dernier à Kinshasa entre les directeurs pays de l'ONU SIDA et la ministre chargée de la famille, femmes et enfants, Lucie Kipélé et Marc Saba, ont examiné ensemble des actions concrètes à mettre en œuvre sous le leadership du gouvernement congolais pour réduire les nouvelles infections en VIH. Un accent particulier a été mis sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, afin de protéger la santé de la femme enceinte positive et celle de son bébé. Restons encore dans le domaine de la santé pour parler des consultations gratuites organisées lundi dernier par l'unité de la police constituée de l'Inde au sein de la MONUSCO à Beni, au Nord Kivu. Selon la police de la MONUSCO, près de 600 patients souffrant de pathologies diverses ont bénéficié des soins et traitements appropriés. Lutte contre les violences sexuelles, le troisième comité de pilotage du programme conjoint Tupinio Bakaji s'est tenu vendredi dernier à Bukavu, au sud Kivu, en présence de l'ambassadeur du Canada et des chefs d'agence du PNUD, du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, de l'UNESCO également et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Objectif de la rencontre ? Dresser le bilan des résultats obtenus après 3 années de mise en œuvre et définir les défis et perspectives pour les 2 années à venir. Notons que le programme conjoint de lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes de l'Est de la RDC a été lancé en 2013 grâce au soutien financier du gouvernement canadien à hauteur de 18 millions de dollars américains.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invitée ce dimanche, c'est Madame D. Brillenberg-Wertz. Elle est chef de la section protection de l'enfant à la MONUSCO. Sa section vient de publier un rapport intitulé « Les filles dans les groupes armés ». Elle livre le contenu de ce document et tout l'intérêt que la MONUSCO accorde à la problématique des filles enrôlées dans les groupes armés. Elle est interrogée par Jean-Pierre Lalicoco.
Madame D. Brillenberg-Wertz, bonjour.
Bonjour.
Votre unité vient de publier un rapport sur le recrutement des filles dans les groupes armés, sous un titre très évocateur d'ailleurs, des rescapés invisibles. D'abord, madame, pourquoi ce titre ?
Parce qu'une grande partie des filles qui sont recrutées par les groupes armés sont invisibles. On explique dans le rapport pourquoi. Chaque année, on documente entre 7 et 8% de filles qui sont recrutées par les groupes armés. Mais quand on parle avec les filles et quand on parle avec les garçons, et on en parle avec des milliers, ils nous disent toujours, il y avait beaucoup de filles, on était 5, on était 4, il y avait 20 filles dans notre groupe. Ça veut dire que les statistiques que nous on a, ça ne correspond pas à la vérité. Maintenant, il y a plusieurs raisons pourquoi ces filles sont invisibles. Un, c'est que on est très connu avec le phénomène garçon avec une arme ou garçon dans un groupe armé. Il y a beaucoup de gens, y compris les filles elles-mêmes, y compris les garçons, y compris les commandants des groupes armés et les éléments des groupes armés, qui pensent que les filles, si elles sont recrutées dans les groupes armés pour faire la cuisine ou on les donne pour être la femme ou la concubine de quelqu'un, ça ne compte pas comme enfants soldats. Ça veut dire que toutes ces filles, quand il y a des redditions de groupes armés, elles ne viennent pas.
Elles se cachent.
Elles se cachent pas exactement. Il y a une partie, c'est qu'elles ne savent pas qu'elles ont aussi le droit de bénéficier des programmes de DDR, de DDR d'enfants. Deux, il y a les commandants qui les cachent aussi, parce que très souvent, ces filles ont été soumises à la violence sexuelle et ils sont très conscients que c'est un crime commis contre elles. Et il y a un autre problème qui est très triste pour ces filles, puisqu'elles sont utilisées à des fins sexuelles par les commandants et par les éléments. Souvent, ou bien elles ont des maladies, ou bien elles sont enceintes, ou bien elles ont des enfants. Alors, beaucoup d'enfants avec lesquels on parle, ils se sont échappés des groupes armés. Mais pour les filles, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'ils peuvent être enceintes ou avec des enfants, et puis ils sont beaucoup plus sous contrôle des commandants. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, que la stigmatisation,
oui,
pour les filles qui sortent des groupes armés que pour les garçons. Elles se sentent pas à l'aise de participer dans des programmes de réinsertion, parce qu'elles pensent aussi que si elles viennent avec leur bébé ou avec leur maladie, on va les rejeter. Oui, dans les communautés. Et je pense que c'est une peur réelle.
Mmh. Voilà. Madame, votre rapport parle de la situation de 2009 à 2015. Et combien d'enfants qui ont été recrutés en général pendant cette période et combien de filles ont été recrutées?
Nous avons parlé pour ce rapport pendant cette période à 850-46 enfants. C'était une période de 4 ans et demi. Et parmi ces enfants, il y avait 600 filles.
600 filles. Et depuis 2015 jusqu'aujourd'hui, on est en 2016, est-ce que vous avez fait d'autres efforts pour faire sortir les enfants ou même les filles des groupes armés?
Nous nous sommes concentrés sur La sensibilisation est doyée. Oui. Ça fait partie de la prévention. C'est pour ça qu'on a publié ce rapport. Parce que la première chose, on voulait vraiment que le public, que les Congolais, que tout le monde sache quel est le problème. La MONUSCO, avec ses partenaires gouvernementaux, travaille non-stop sur la prévention. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous sommes tout le temps en train de communiquer pour prévenir le recrutement d'enfants. Maintenant, avec ce rapport, on s'est réalisé, il faut un focus spécial sur les filles. La MONUSCO, avec ses partenaires gouvernementaux et surtout la FADC, nous avons travaillé ensemble. Par exemple, on a fait des cartes de poche pour des aides mémoire pour les FADC, pour les conscientiser sur ce phénomène de filles. Nous avons aussi produit des aides mémoire partage aux groupes armés, ou bien on les jette des avions, la MONUSCO, ou bien nos forces, quand ils sont là où il y a des groupes armés, ils partagent ça. C'est la sensibilisation. Nous avons un programme conjoint de communication pour la prévention.
C'est bien. Et parlons un peu de la réinsertion sociale de ces enfants qui sortent des groupes armés, notamment des filles. Je sais que vous faites la prévention, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses se passent sur le plan de la prise en charge des enfants qui sortent des groupes armés?
Bon, le système au Congo, c'est que la MONUSCO sépare les enfants avec les partenaires.
Quels sont ces partenaires, souvent?
Les partenaires, ce sont des ONG locales qui sont financées par UNICEF, par exemple, et c'est eux qui font le trajet de réinsertion familiale.
Donc, en d'autres termes, la prise en charge, c'est fait par les humanitaires et bien sûr avec l'appui de l'UNICEF, par exemple.
Voilà, oui. Comme ça.
Oui, c'est assez clair. Mais vous mettez beaucoup plus d'accent sur les enfants recrutés par les groupes armés. Et pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de forces armées? Parce que dans les forces armées, il y a aussi des enfants qui ont été recrutés.
Pendant cette période, oui, nous avons documenté aucun cas, pas de filles, heureusement. Et je dois dire que le problème de recrutement d'enfants, vraiment, c'est pour 99,99999% les groupes armés. On a séparé quelques enfants du FARDC qui ont été recrutés en 2013 et 2014, mais c'est même pas 1% du total. Je voulais seulement le dire que le problème maintenant, il est avec les groupes armés. On a fait un bon travail avec le gouvernement. Maintenant, il faut qu'on travaille avec les groupes armés.
Lorsque je lis ces rapports que j'ai entre mes mains, on remarque que le Nord Kivu est en première loge de provinces affectées par le recrutement des enfants. Et les FDLR sont le plus grand recruteur. Comment expliquer ces doubles phénomènes?
Bien sûr, le conflit se passe à Nord Kivu, un peu au Sud Kivu aussi, et c'est reflété dans les chiffres de recrutement d'enfants. Là où il y a le conflit, on recrute des enfants. Les FDLR, oui, pour nous, ce sont les plus grands recruteurs, suivis par le Raia Mutomboki et Nyatura. Par exemple, l'année passée, on a séparé presque 900 enfants du FDLR. C'est 891 enfants séparés du FDLR.
Pour terminer, aujourd'hui, vendredi, la communauté internationale célèbre la journée de la mer Rouge. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'égard de la population congolaise et notamment des groupes armés, parce que vous mettez un accent surtout sur le recrutement des enfants par les groupes armés?
Il n'y a pas de place dans une armée ou un groupe armé pour des enfants. La guerre se fait par les adultes, pas par les enfants. Il ne faut pas recruter des enfants. Je voulais dire aux groupes armés, parlez avec nous, entrons en dialogue pour voir comment on peut recevoir les enfants dans vos rangs pour qu'ils puissent avoir une vie normale comme tous les autres enfants.
Madame D, Radio Capi vous remercie de votre disponibilité d'être venue dans ces studios.
Moi, je vous remercie parce que tout le travail que vous faites ensemble avec nous, ça aide. Ça aide à sensibiliser et à changer des choses pour de bon.
Nous restons à Kinshasa pour la nouvelle de province. L'indice FAO des prix des produits alimentaires en recul en janvier a donc perdu 1,9% par rapport au dernier mois de 2015. Information publiée au début de ce mois de février en cours par le bureau Relations avec les médias de la FAO. À la base de ce recul, la chute des cours de toutes les denrées concernées, à commencer par le sucre. Nadine Foulantimba pour les détails.
L'indice de janvier a voisiné le 150,4 points en repli de 16% par rapport à un an auparavant et son plus faible niveau depuis avril 2009. Selon le communiqué de la FAO, les principaux facteurs à l'origine de cette baisse persistante des prix sont les conditions de l'offre de produits agricoles généralement abondantes, un ralentissement de l'économie mondiale et les raffermissements du dollar euro. Ce mois-ci, la FAO a également révisé ses prévisions des stocks céréaliers mondiaux en 2016 après avoir réduit ses estimations de la consommation et relevé ses perspectives de production pour 2015. Tenez, par exemple, l'indice FAO, les prix des huiles végétales a perdu 1,7% essentiellement à cause d'un déclin de cours de l'huile des soja, traduisant le perspective de bonne disponibilité mondiale de soja. L'indice FAO des prix du sucre a diminué de 4,1% depuis décembre. Il s'agit de la première baisse en 4 mois due à l'amélioration des conditions des cultures au Brésil, de loin le premier producteur et exportateur mondial de sucre. L'indice des prix de produits laitiers a chuté de 3% compte tenu de grandes disponibilités à la fois dans l'Union européenne et en Nouvelle-Zélande et de la demande léthargique des importations mondiales. Rappelons enfin que l'indice FAO des prix alimentaires est un indice pondéré qui mesure la variation mensuelle des 5 catégories principales de denrées sur le marché international, céréales, viande, produits laitiers, huiles végétales et sucre.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous vous proposons la question d'un confrère de Goma sur les capacités de surveillance aérienne de la MONUSCO. Et c'est Félix Prosper Basse, porte-parole de la mission, qui répond.
Oui, je m'appelle Félix Cassandra, je suis journaliste indépendant. Ça va, mais la MONUSCO peut-elle confirmer aujourd'hui de posséder ou d'avoir les moyens de surveillance aérienne? Car quasiment toute sa flotte des drones, on en parle depuis. Oui, le massacre américain. L'insertion des FTLR, c'est clair, c'est difficile de faire la prévention par la surveillance aérienne vu les résultats. Qu'en est-il ?
Concernant notre flotte aérienne, comme vous l'avez tantôt indiqué, concernant nos aéronefs sans pilote, qui, comme vous le savez, nous ont permis d'acquérir une capacité dans le recueil, la collecte et l'exploitation du renseignement, qui est partagé aussi bien au sein de la MONUSCO, mais aussi qui est partagé avec nos partenaires FRDC qui sont sur le terrain. Mais au-delà même des applications purement militaires de ces aéronefs sans pilote nous ont permis de sauver des vies en sonnant l'alerte précoce et qui nous a permis de nous déployer à temps pour aller porter secours à ceux qui en avaient besoin. Oui, nous avons connu des problèmes techniques, mais vous savez, ça entre dans le cadre normal de la technique. Mais ceci ne nous handicape pas du point de vue de la conduite opérationnelle de nos activités, puisque nous avons toujours une capacité qui nous permet réellement de remplir notre travail et de poursuivre la traque contre les groupes armées et de manière déterminée.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Voilà, bonjour fidèles auditeurs de Radio Okapi et de Magazine des Nations Unies. Moi, je m'appelle François Kadima. Je suis marié à Joséphine Alishama. Voilà, c'est madame mon épouse. J'ai fait mes études primaires à Kananga, dans l'école Malanji. Si vous connaissez cette école à Kananga, ils vont s'y retrouver facilement. Et les humanités, c'est à Chikapa, toujours dans le Kasai. Je suis passé par plusieurs écoles. D'abord, complexe scolaire Gila, après Djibelaï, après je suis arrivé à Mabondo, pardon, et puis je suis allé à l'Institut Chukunga, où j'ai fini, obtenu mon diplôme d'État. C'était en 98. Je suis resté un moment avant de venir à Kinshasa faire mes études universitaires à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC, où j'ai obtenu ma licence en journalisme politique extérieur. Voilà, je suis à la radio Okapi depuis 2012. Actuellement, je suis au service web. Je suis web éditeur où chaque matin, quand nous venons, nous avons des tâches réparties. Nous traitons les informations à mettre en ligne. Tout ce qui se passe à l'antenne, nous le faisons au service web de Radio Okapi. Voilà, à part le web, je suis également dans l'équipe Écho d'économie. Je présente le journal économique, également le Zoom, qui passe à l'antenne chaque matin. Donc les infos internationales à midi, sur Okapi également. Donc voilà, c'est les autres tâches collées à ce que je fais donc au web. Avant d'arriver ici à la radio Capi, je suis passé par des médias du pays, donc à l'intérieur, d'abord à Chicapa. J'ai été à la radio télé universelle. C'est en 2000, quand j'ai commencé, la radio télé universelle, où j'ai présenté les émissions de musique. Après, là, je suis allé à une autre radio qui s'appelle Kasaï Horizon. Radio-télévision Kasaï Horizon, c'est à l'intérieur à Chicapa, où j'ai en dehors deux émissions de musique. Alors, j'ai commencé à présenter les journaux. Ça m'a donné le goût et voilà, avant de venir à Kinshasa en 2004, intégrer la RTGA, la radio-télé du groupe L'Avenir, où j'ai été reporter, présentateur des émissions, donc c'est ça, animateur des émissions, bien sûr, avant de rejoindre Radio Capé en 2012. Voilà, les perspectives d'avenir après Radio Capi. Je voudrais créer une grande agence de production. En tout cas, j'aime bien ce travail. J'ai de la passion pour ce travail. Et je voudrais créer une agence pour apprendre aussi aux autres à bien faire ce travail. J'aime bien la perfection. J'aime être travail bien fait. Voilà, c'est pourquoi je veux bien continuer à le faire. J'aime bien être journaliste. En tout cas, c'est pour toute ma vie. Mes préférences... J'aime le sport. Vous avez été avec nous dans cette ambiance du CHAN, du championnat d'Afrique de Nations. Les Léopards nous ont donné de la joie, la victoire. Nous avons été très contents. Voilà, j'aime le foot. La musique, j'aime aussi. Je peux me rappeler encore des morceaux chrétiens que j'aime bien chanter. Tu es pour nous un bon berger, en toi nous pouvons toujours espérer. Voilà, c'est très bien pour moi comme ça. Le Kassav m'intéresse aussi. Voilà. Et Kassav, avec le groupe Kassav, j'ai beaucoup aimé ce groupe depuis très longtemps. Oui, donc j'aime bien la musique en dehors du sport. Merci à tous les auditeurs de Radio Capi. Nous vous aimons bien, nous aimons ce travail. Bonne journée dominicale.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et nous terminons avec notre agenda de la semaine. Notez ce rendez-vous du 17 au 18 février. Retraite de l'équipe des pays des Nations Unies en République démocratique du Congo. Elle réunira les chefs d'agence, fonds et programmes et leurs adjoints, ainsi que les présidents des groupes de travail, programmes, opérations et communications. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du magazine des Nations Unies qui vous a été présentée par Tina Salama, à la coordination, reportage et réalisation, Jean-Pierre Elali Coco, le tout sous la supervision de Martin Sebujangwe. Si vous voulez le réécouter, vous n'avez qu'à aller sur notre site internet, vous connaissez l'adresse, vous tapez www.radiocapi.net. On n'oublie pas Jean-Claude Nicolas qui l'a mise en onde et on se dit à très bientôt. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao.